L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Bruxelles, un jour d'hiver, début décembre 1903. Nous sommes à Ixelles, dans la rue Goffard, proche de l'actuelle chaussée de Wavre. C'est là qu'habite un gamin de presque 13 ans, Victor Kibaltchik, famille d'origine russe. Un oncle pendu suite à l'assassinat du tsar Alexandre II. Un père subversif et complotiste qui a dû fuir la Russie. On a la fibre révolutionnaire chez les Kibaltchik. La mère, elle, est de petite noblesse polonaise. Après des errances, ils se sont fixés chez nous, dans la capitale belge. Victor y est né en décembre 1890. Et il faut avouer qu'on n'est pas riche chez ces émigrés. On mange bien jusqu'au 10 du mois, puis plus mal du 10 au 20. Et pas du tout jusqu'à la fin du mois. Nous sommes le 10 décembre 1903, il est 9h, l'heure H de mon histoire. Ce matin-là, Victor remonte la rue Goffard avec son panier à provisions. Eh oui, on est au début du mois. Il est vêtu d'une blouse à la russe avec carreaux blancs et mauves. Il croise soudain un autre gamin. Et voilà que ce sale gamin le regarde derrière ses lunettes de myope. Plus, il ricane en le voyant ainsi vêtu, ainsi chargé. Ricanement, injure, le russe pose ses victuailles et se rue sur l'autre. Bagarre, souffle court. Les lunettes de son adversaire tombent sur le trottoir. Victor arrache le maigre vêtement du moqueur. Ni vainqueur, ni vaincu. Mais le début d'une longue amitié. Finalement, ils vont s'expliquer et ils vont en rire. L'autre enfant a aussi 13 ans. Il se nomme Raymond Calmin. Il deviendra le célèbre Raymond La Science. Calmin, lui aussi, est né à Bruxelles. Il vit, il pousse dans la rue, chaparde aux devantures des boutiques pour manger. Sa mère est journalière, son père cordonnier. C'est un ancien socialiste désabusé, alcoolique, violent. Pour fuir les coups, Raymond va souvent se réfugier chez son ami. Il va y dévorer des ouvrages entiers, surtout des livres d'histoire. Ce sera l'obsession de Calmin, s'instruire, apprendre, connaître. En mangeant un peu de chocolat, en tournant les pages, il rêve avec son ami Victor à toutes les révolutions. Pendant ce temps, sa sœur de 15 ans s'installe dans une rue louche, à la fenêtre d'une matrone. Elle va vendre ses charmes aux bourgeois. Raymond serre les poings de rage. Se révolter, les deux amis ne pensent qu'à cela. D'autant qu'au cours de cette année 1903, Victor a entendu son père s'exalter une nouvelle fois. Pensez donc, c'est dans la capitale belge, au mois d'août, que s'est déroulé le célèbre congrès de Bruxelles. C'est là qu'a eu lieu la fameuse scission dans le Parti ouvrier social-démocrate de Russie. D'un côté, les bolcheviks majoritaires dirigés par Lénine, favorables à la dictature du prolétariat. De l'autre, les minoritaires mencheviks, plus modérés. Vous l'avez compris, chez les Kibaltchik, on est engagé politiquement. Raymond Calmin, lui, ourdit une révolte plus sociale, plus pragmatique, plus terre-à-terre. Mais leur foi est aussi intense. Ils la nourrissent lors de leurs étranges ascensions du monument le plus babylonien de Bruxelles, le Palais de Justice. Les toits du Palais de Justice, racontera plus tard Victor, devint notre lieu de prédilection. Nous nous faufilions par de sombres escaliers barrés d'écriteaux, défense de passé. Nous laissions derrière nous les salles des tribunaux, les poussiéreux dédales vides. Et nous arrivions au grand air, à la lumière, dans un paysage de fer, de zinc et de pierre, d'où l'on apercevait toute la ville et tout le ciel. Quel espace idéal pour rêver un monde meilleur, pour ricaner en voyant les juges et les avocats en contrebas avec sous le bras leur paperasse de prison et de mort. C'est là, en contemplant la ville, que ces tout jeunes garçons découvrent un visage de la société. Les avocats sont là pour invoquer la loi des riches, les médecins pour les soigner, les architectes pour les loger luxueusement. Où est leur place à eux deux ? Elle sera, ils en décident, du côté des exploités pour combattre ce régime inacceptable. Et encore faut-il manger à sa faim. Trouver un métier pour gagner leur pain, à 13 ans. Raymond se fait garçon de bureau, mitron, apprenti boucher, 16 à 18 heures par jour, sans congé hebdomadaire. Abrutissement total pour 70 à 80 francs. Par comparaison, le kilo de beurre coûte près de 4 francs et un costume, 110 francs. Kibalchich, lui, s'improvise apprenti photographe, dessinateur, technicien de chauffage central. On le paye très peu, sous prétexte qu'il est encore trop jeune. Mais bon sang, où trouver des camarades qui veulent aussi s'engager dans leur lutte ? Ils sont encore naïfs. Au début, ils se tournent vers les syndicats ouvriers et vers certains partis politiques de gauche. Mon Dieu, quelle déception ! Le temps de découvrir que ces imbéciles sont manipulés par les patrons. Que les représentants ouvriers sont généralement cupides, à la solde des dirigeants industriels. Ils comprennent que si une grève aboutit à une augmentation de salaire, les capitalistes réaugmenteront sur le champ le prix des denrées alimentaires. Ils comprennent que ces profiteurs ne veulent qu'une chose. Détruire l'État social pour s'installer à leur tour au pouvoir. Les deux amis sont vite dégoûtés. Ils claquent la porte. Autre tentative. À 15 ans, il intègre la jeune garde socialiste d'Ixelles, qu'ils vont vite juger peu révolutionnaire. Par contre, ils apprennent que les plus décidés de ce mouvement, Adlumen, ont fondé le groupe révolutionnaire de Bruxelles. On y lit Darwin, Marx, le Dantec. Alors ils y courent. Enfin, de vrais révoltés comme eux. Ce groupe révolutionnaire de Bruxelles édite un journal, Le Révolté, auquel ils vont participer. Même enthousiasme à la colonie communautaire et libertaire, l'expérience à Watermael-Boitsfort, qui les séduit totalement. Depuis sa fondation en 1904, la devise est inscrite sur le portillon d'entrée. « Fais ce que tu veux ». Kalman et Kibalchich vont y trouver un encouragement, des orateurs et un auditoire. Ils vont rédiger des articles virulents pour Le Révolté, à côté de grandes signatures comme Francesco Ferrer et Élisée Reclus. C'est ainsi que l'on retrouve des articles de Kibalchich de 1908 à 1910 et de son ami Raymond Kalman en septembre 1909 et en janvier 1910. Tous deux ont aussi se lié d'amitié avec un typographe, Jean de Boé, qui leur restera fidèle jusqu'au procès de la bande à Bonneau. Au cours des débats, Kalman ne cesse de prôner l'emploi de la science et des techniques du progrès pour engager la lutte sociale. C'est de là que viendra son sobriquet de Raymond la Science. C'est à croire que les rues de Bruxelles sont fécondes en rencontres. Il arrive à Kalman de se promener de long en large, place de Brouckère, avec une jeune Russe émigrée qu'il veut convaincre de se joindre à sa révolution. La jeune fille préférerait joindre ses lèvres à celles de Raymond, mais Raymond est chaste et naïf. Alors, il file, entre deux boulots, vers la Bibliothèque royale du Mont des Arts pour lire Arthur Comte. Son ami Victor est un peu désemparé. Il n'approuve pas l'action violente que Raymond appelle déjà de ses voeux. Un jour qu'il promène son vague à l'âme dans la rue de Reusbrook, derrière le musée d'art ancien, il va faire une rencontre lourde de conséquences. Chez un petit libraire épicier, il engage la conversation avec un ouvrier tourneur, visage épais, impuissante, yeux rusés mais timide. Il est bâti en Hercule de foire. Il s'appelle Édouard Carouy. Carouy est né à Montigny-les-Lances, à côté de Mons, il a 25 ans. Il confie à Victor que, lui aussi, dévore des journaux révolutionnaires et engagés. C'est d'ailleurs chez ce petit libraire acquis à la cause qu'il les achète. Il était parti pour faire une belle brute, inconsciente de son sort. Maintenant, dit-il, il travaille dans un garage, fait du sport et est devenu végétarien et sans alcool. Édouard est sympathique, désireux de s'engager. Maman, où habites-tu ? Questionne Victor. Rue Evart, entre le boulevard de l'Abattoir et la chaussée de Ninove. Écoute, je vais te présenter au groupe du Révolté. Tu verras, ils sont des nôtres. Dès sa première visite au groupe révolutionnaire, le gros Édouard fait l'unanimité. Ce jour-là, on déménage l'imprimerie. Personne pour transporter l'immense table de marbre de la presse. Édouard s'en empare. La cale sur ses cuisses et les veines gonflées la transporte sur 200 mètres. Tous les illégalistes l'applaudissent. Il est adopté. Il a les talons de ses chaussures écrasés, mais le soir même, une jeune femme du groupe s'éclipse dans son sillage, car on prône l'amour libre à l'expérience. D'une force herculéenne, Édouard, qu'on surnomme le blanc ou le gros, est d'une intelligence plus que moyenne. Il est las de cambrioles et multiplie très vite les reprises individuelles. Mais on le dit avare, c'est qu'il a un secret. Il achète des centaines d'oiseaux avec leurs cages, dont il ouvre les portes devant les oiseleurs médusés. Libérés, les volatiles ne demandent pas leur reste. Ils sont plus malins que les humains, ponctue Édouard. Les ouvriers, eux, restent attachés aux grilles de leurs usines, de leurs corons. Et Caroui se met alors à parler de prison et à cracher sur la justice. Caroui ne supporte pas les barreaux. Il ne les supportera pas plus, 2 ou 3 ans plus tard. Qui pourrait dire qu'à ce moment, dans Bruxelles et dans la communauté en forêt de Soigne, s'agrège ce lit des hommes jeunes, armés de volonté et de théorie, et qui vont se radicaliser, s'insurger, faire la une de tous les journaux, ébranler ce qu'on nomme angéliquement la Belle Époque.
L'heure H, Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans l'heure H, je vous raconte comment la bande à Bono s'est formée en Belgique, en attendant de rencontrer Bono. C'est déjà dans la lutte, au cours d'une bagarre, que se rencontrent Victor Kibalčić et Raymond Calmin, qui sont les deux premiers protagonistes de la bande. Ils ont 13 ans et la vie dure. Tous deux rêvent d'une vie meilleure et ne pensent qu'à se révolter. Sur leur chemin, ils vont croiser celui d'autres jeunes anarchistes. À Bruxelles, mais aussi à Charleroi, une ville que nous savons propice à la révolte ouvrière et aux grandes grèves. Dans le pays noir autour de Charleroi, se joue aussi un épisode majeur de cette radicalisation. Le 6 octobre 1910, arrive à Charleroi un certain Octave Garnier, citoyen français né à Fontainebleau. Il a 20 ans. Terrassier, militant syndicaliste, il a connu lui aussi la misère, l'abrutissement, la prison. De militant syndicaliste, il est devenu illégaliste et a déclaré la guerre à la société. Il vient de franchir discrètement la frontière française pour fuir le service militaire de son pays. Mais c'est plus son physique qui frappe tous ceux qu'il croise. Beau garçon, mince, athlétique, teint basané et surtout des yeux noirs, perçants, durs, ardents. Des yeux revolvers, un véritable double tir. « Baisse tes yeux, on va te reconnaître », lui diront ses complices de cavale. Ses yeux révèlent un homme de 20 ans, silencieux de nature, mais attiré par l'action. Les idées l'ennuient. Le lieu où il arrive, Charleroi et son bassin, forment une usine sans fin. Partout des hurlements de machines, des ciels de sang, des puits de mine, des corons à n'en plus finir, des cloutiers, des verriers. Octave pénètre dans un des bassins industriels les plus dynamiques du pays. Il doit avoir ici, pense-t-il, un potentiel de travailleur avec une conscience sociale. Et il a vu juste. Charleroi, à l'époque, fourmille d'idées subversives. La police est sur les dents, prête à coffrer ces mécontents qui se jugent exploités, écrasés par le patronat. Garnier va y trouver un terreau fertile, un écho à sa révolte naissante. Très vite, il entre en contact avec des militants, des milieux anarchistes. Bon, ce n'est guère compliqué. Il suffit de bien se renseigner et surtout de se méfier. Car un dicton se murmure à l'époque. Quand trois anards se rassemblent, il y a deux flics et un imbécile. Pour avoir fréquenté les illégalistes, Garnier est embarqué par les cognes et écope de 8 jours à la prison de Charleroi. On a trouvé sur lui un poignard. À peine libéré, il découvre les réunions de la Maison du Peuple de Mont-sur-Marchienne, juste à la sortie de Charleroi. Sous prétexte d'assemblée de sociétés d'entraide mutuelle, c'est là que les vrais anarchistes refont le monde, du moins la société. Ironie géographique, ce lieu, situé à côté du magasin coopératif, fait face au Carmel et à la chapelle des religieuses. Bon, qu'importe finalement. C'est la foi qui compte. Les réunions dégénèrent de temps à autre, surtout quand les illégalistes excitent l'assemblée au pillage et même au meurtre. Cela plaît à Octave. Il brille surtout par sa lucidité et perçoit le seuil de misère sur lequel vient buter sa fronde. Garnier décide de s'installer quelque temps à Charleroi pour y vivre. Il ne trouve que des logements misérables. Rue du Cavalier devenue la rue de la Régence, puis au boulevard Jacques-Bertrand. Entre deux vols, il est engagé comme terrassier. En effet, la ville entreprend des travaux gigantesques pour s'embellir en vue de la grande exposition qu'elle prépare pour l'année suivante, en 1911. Il travaille dans la rue Pige au Croly, dont les maisons ouvrières existent toujours. Le bel Octave croise chaque jour une habitante de la rue. Son regard et sa beauté athlétique font le reste. Ils engagent la conversation et un coup de foudre amoureux les relie très vite. Elle est mariée, se nomme Marie Villemin, épouse Scoffs. Éperdument amoureuse, Marie quitte son mari et sa mère poursuivre le bel Octave. Il aime ses formes opulentes, apprécie qu'elle soit fardée, fastueuse. Dans le milieu des camarades anarchistes, on l'appellera Marie la Belge. Fidèle, elle le restera jusqu'au bout, jusqu'à la tuerie finale. Chassée par sa mère, c'est elle qui pousse son amant à quitter Charleroi, à s'éloigner du mari en furie. Oh, cela convient au bel Octave qui sait que ses camarades l'ont déjà précédé à Bruxelles. Les anarchistes bruxellois, pense-t-il, auront plus d'envergure et d'audace qu'ici. Sur le champ, les amoureux bouclent leurs maigres baluchons et débarquent dans la capitale. À l'imprimerie du journal Le Révolté ou dans les réunions illégalistes à la colonie de Watermael-Boitsfort, Octave et Marie sont vite adoptés. Mais là encore, Octave s'impatiente devant les discussions théoriques. Il a un besoin physique d'action immédiate. Œil pour œil, dent pour dent. 6 balles pour les chiens de garde, 1/7 pour moi, résume-t-il. Il reconnaît des frères de révolte dans les personnes d'Édouard Caroui, d'un certain Vallée, réfractaire à tout et bien sûr de Raymond Calmin. Le trio se forme. Caroui, une mécanique insurgée. Calmin, le maître à penser. Et Garnier, le fauve, en liberté. Caroui lui apprend la technique du cambriolage et en fait un professionnel du fric-frac. Mais ça ne comble pas l'attente du bel Octave. Il envisage de passer à la vitesse supérieure. Il s'intéresse de plus en plus à cette merveille qu'on nomme l'automobile. Quand il en croise une, luxueuse, qui se range devant un hôtel particulier des avenues Cossu de Bruxelles, il serre les poings, la contemple avec une idée fixe. Des fumées de bonne chair montent des soupiraux. De lourdes tentures masquent la beauté des épouses ou des maîtresses peut-être. Mais c'est la mécanique qui le fascine. Et une idée attire son attention. Ce bruit parfait de mécanique. cette puissance qui permet de fuir à 60 km par heure. Voilà la solution pour passer à l'étape suivante. On ramasse le pactole et zou, on disparaît immédiatement d'un coup d'accélérateur. Ah, ce serait parfait. Fini les petites cambriolées où l'on risque de se faire pincer par les Pandores. Calma a raison. Vive la science, la technique, le progrès. Il le notera dans ses mémoires, c'est lui qui a eu l'idée du premier hold-up en automobile. Pendant ces derniers mois, j'avais cherché un copain chauffeur, mais vainement. Mais j'avais appris à conduire, mais n'étant pas encore très habile, j'hésitais encore à me lancer pour aller voler une automobile afin de faire un coup qui me mettrait à l'abri du besoin. Vous avez entendu ? Le besoin. Cela signifie le gain et les larcins. Quand Octave et ses amis sentent les filets de la police resserrés sur eux, ils jouent à saut de frontière. C'est ainsi qu'ils débarquent à Paris, à Romainville plus précisément. Là se trouvent à ce moment les locaux du journal L'Anarchie. Ils y trouvent avec enthousiasme le bruxellois Victor Kibalčić, qui, avec sa compagne française, la mignonne Rirette Maître Jean, dirige la rédaction de l'Anarchie. Dans la mouvance de ce groupe, il rencontre un certain valet, autre déserteur, un vrai poil de carotte. Il y a aussi André Soudi, un gamin, un pas de chance, avec son accent du faubourg et ses yeux gris et doux. Déjà plusieurs fois emprisonné, c'est en cellule qu'il a contracté la phtisie. Il sait qu'il n'a plus rien à perdre. À Romainville, c'est presque une vie idyllique. Le lieu est charmant, un pavillon entouré d'un jardin planté d'arbres où s'épanouissent des fleurs. Au premier étage, une bibliothèque. Valet se fait typographe. Garnier et Carouille tournent la presse d'imprimerie. Raymond, eh oui, tient la caisse. C'est là que Calmin se rend compte de la distance qui s'est creusée entre lui et son ancien ami Victor Kibalčić. Le russe refuse toute violence. Par contre, plusieurs amis venus de Belgique, eux, sont décidés à passer à l'action au plus vite. Le monde de l'anarchie, à cette époque, présente pas mal de contrastes. Donc, bien sûr, on y rencontre à Bruxelles, à Charleroi, comme à Paris, de doux rêveurs, des poètes, des farfelus, végétariens ou hygiénistes. Mais c'est une minorité. La plupart sont très jeunes. Ils ont une vingtaine d'années. Ils ont pris conscience de leur époque. Ils ont compris qu'ils faisaient partie de la classe des délaissés. Ce grand élan de l'anarchie cache beaucoup de misère. Mais surtout, il révèle un trouble profond dans la société et les esprits. Une prise de conscience. Nous avons affaire à une autre anarchie. On n'est plus à l'époque de Germinal ni des années 1880. En 1910, l'engrenage social frappe ces jeunes révoltés plus mentalement que physiquement, plus dans leur réflexion que dans leur corps. Leur insurrection repose sur un constat précis. Les patrons exploitent les travailleurs comme le font les militaires dans les colonies. L'armée ment, pille, massacre. Le clergé offre aux plus offrants une place au paradis. Les banquiers sont des escrocs. La presse endort les foules. Le régime politique est pourri. Et le peuple naïf applaudit ses dirigeants des deux mains. Raymond Calmin, son ami Victor Kibalčić, Édouard Carouille, Octave Garnier et leurs camarades sont des anarchistes d'une nouvelle génération. Plus de dynamite pour faire sauter la société comme Ravachol et autres poseurs de bombes. Non, non, non. Cette fois, ils entament une guerre. Et cette guerre a pour but de faire main basse sur la richesse des possédants, ce qu'ils nomment la reprise individuelle, à des fins collectives, bien entendu, car on partage tout entre anarchistes. La générosité est un de leurs devoirs sacrés. Dans leur esprit, ils ne font que reprendre aux possédants ce que ces derniers leur volent par leur labeur. Aspiration vague d'abord. Mais c'est la conviction de ce noyau dur de la future bande qui est en train de se former autour de Carouille, de Calmin et de Garnier. Et ce dernier explique très clairement dans ses mémoires son passage de la désillusion à l'enthousiasme. Tout cela continue à maigrir le caractère et naturellement, Plus j'allais, plus je m'éduquais, plus je comprenais la vie. Comme je fréquentais les anarchistes, je comprenais leurs théories et j'en devenais un fervent partisan parce que je les trouvais les plus justes discutables. Ils me démontraient non des utopies, mais des choses que l'on pouvait voir et toucher. Cette prise de conscience nous montre qu'il faut cesser de ne voir dans ces jeunes hommes que des ignares, des exaltés, des bandits sanguinaires, mais bien des exploités lucides, sincères, qui veulent s'en sortir. Garnier veut travailler pour lui, et non plus travailler pour les autres. République, liberté, Dieu et service militaire pour la patrie ne sont pour lui qu'horribles hypocrisies. Il le dit, il l'écrit. Pour l'instant, les cambriolages, les vols sont leurs seules activités anarchistes. Mais ce n'est que bricolage pour certains. Cela s'impatiente. Alors, à quand le grand soir ?
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans l'heure H, je vous raconte comment la bande à Bono s'est formée en Belgique avant de rencontrer Bono. À ce stade de notre histoire, ces jeunes anarchistes n'ont pas encore franchi la ligne. Ils ne sont pas encore les bandits tragiques dont toute la presse va parler et qui fascinent toujours. Ce qu'ils veulent maintenant, c'est porter un coup retentissant contre la société qu'ils refusent, changer les choses, marquer l'histoire. Où donc tenter un grand coup ? Garnier connaît pas mal Paris, d'autant qu'il se sent épié. Avec quelques camarades, il décide de préparer une reprise individuelle dans une ville qu'il connaît parfaitement, Charleroi. Sa maîtresse, Marie la Belge, va d'ailleurs lui être d'une aide précieuse. Il semblerait que d'abord, dans une commune proche de la ville, il tente de voler une automobile. Toujours le même objectif. Mais c'est un échec. Dès lors, Marie va lui donner une idée. Elle est femme de ménage et ses patrons semblent assez cossus. Elle a repris du travail à la ville haute, au coin de la rue Zénobgram et du boulevard du Nord, l'actuel boulevard Paul Janson. C'est un café au repos des travailleurs tenu par un nommé Pierre Decubert, dit Sillon. L'établissement n'a pas bonne réputation. Les bagarres y sont fréquentes et les filles qui racolent sous les réverbères du quartier s'y retrouvent souvent pour siroter en montant. Tout se joue la nuit du 7 au 8 mars 1911, quelques jours après la parution à Paris chez Fayard, d'un roman que le public et parfois des anarchistes vont s'arracher. Fantomas. Cela crée déjà notre atmosphère. Mercredi 8 mars, 1h du matin. Un vent frisqué balaie la place du manège couverte de cendrées. Aujourd'hui s'y dresse le palais des beaux-arts de la ville. Les agents Demaret et Solvay y font leur ronde. Ils s'engagent dans le labyrinthe des cours, impasse et terrain vague qui occupent ce quartier. Un inspecteur en civil les rejoint. Une dispute vient d'éclater du côté du boulevard du Nord. Soyons vigilants. À la recherche d'un nouveau point de contrôle, les deux agents sont attirés par les allées et venues d'un quidam louche qu'ils interpellent rue Zénobgram, dans un terrain vague. Mais voilà une ombre qui file vers la rue Neuve. L'autre agent se précipite. Son chien, un Groenendaal, culbute le fuyard. Ce dernier sort son arme. Le chien est cloué sur place. L'agent Desmarais bondit et désarme le tireur avec l'aide d'un gendarme en bourgeois. « Prenez garde !» hurle l'individu. « Lâchez-moi ou mes amis vous tueront !» Quels amis ? Justement, cette ruse était voulue par Garnier. Pendant que ses deux complices attiraient les flics dans un quartier voisin, lui, Caroui et un certain Monnier ont éteint quelques réverbères rue Zénobgram et se sont introduits chez les deux Cubert. Ils sont passés par une petite porte qui existe toujours à côté de l'ancien café. À l'intérieur, Garnier fauche ce qui lui semble intéressant. Il est à l'aise et même en pays de connaissance. C'est là qu'il est venu maintes fois relancer la femme à journée du café, une certaine Marie Vuillemin, sa désormais compagne. C'est d'ailleurs Marie qui, sciemment, avait laissé ouverte la porte particulière à l'arrière du bistrot. Nuit agitée pour la police Carolo. La Gazette de Charleroi du matin du 9 mars sort ses gros titres. Dramatique arrestation de cambrioleur à Charleroi. Un agent qui l'a échappé belle, un chien policier blessé, une bande d'apaches. Emmenés au poste, les deux guetteurs de Garnier sont fouillés. Et les policiers sont sidérés. Masques, poignards, lanternes de poche, fioles de chloroforme, fausses clés, Browning prêt à l'emploi, trois chargeurs préparés et des numéros de La Guerre sociale, un journal anarchiste. Voilà qui est signé. L'un dit s'appeler Alexandre Bastet, parisien de 19 ans, tandis que le forcené de la rue Neuve se présente comme Marcel Orman, 20 ans, un autre français. Garnier a recruté à Paris des sympathisants pour son hold-up à Charleroi. Hold-up au résultat bien mince. Une somme de 100 francs, trois montres en or, des bijoux, mais qu'importe pour Garnier. C'est le sens de son geste. Il a repris des valeurs gagnées par le cabaretier sur le compte des ouvriers qui s'alcoolisent dans son établissement. Au dépôt, bouche cousue des deux prisonniers. La police est persuadée qu'il s'agit d'illégalistes. La preuve. À l'Amigo de Charleroi, Herman tente de se pendre après avoir trempé son doigt dans son sang et avoir écrit sur le mur de sa cellule « Je meurs pour l'amour d'eux ». Pure tradition anarchiste. Le blessé n'a pas eu le temps de terminer sa phrase. Son gardien s'est aperçu de sa tentative et a coupé aussitôt la corde. La police locale ne chôme pas. Un inspecteur de la sûreté bruxelloise accourt à Charleroi pour interroger les deux détenus. La police judiciaire se met en campagne et arrête un suspect rue de Serbie à Forêt. Elle apprend que deux des cambrioleurs sont connus sous les noms de Mistral et de Gros-Édouard. Vous avez deviné, il s'agit de Caroui, le libérateur d'oiseaux. Ils n'ont eu que des petits titres dans un journal de province. Alors ils en veulent plus. Ils n'ont plus guère à attendre. La bande à Garnier va glisser vers le banditisme. Et cette fois, fini de prêcher l'action directe. Ils vont y entrer définitivement. 8 mois plus tard, en novembre, à Paris, ils rencontrent par un ami commun le dénommé Jules Bonneau. La bombe à retardement qu'ils ont formée depuis quelques mois vient de trouver son détonateur. Bonneau, lui aussi, a été malmené par la vie. Il a perdu son fils et son épouse. Il passe même pour un sentimental. Fabricant de fausses monnaies, il veut également découdre avec la société. Il a déjà du sang sur les mains. S'étant débarrassé d'un complice, un anarchiste italien nommé Platano, pour une raison obscure. Très énergique, parole brève, yeux perçants, passé trouble. Il a tout pour séduire nos jeunes anarchistes, car il possède deux atouts à leurs yeux. D'abord, il est plus âgé, il a 35 ans. Et puis, il s'est spécialisé dans le vol des autos. Il les connaît, les conduit parfaitement et sait les réparer. Pourquoi tarder ? Avec lui, Garnier se perfectionne au volant et part en repérage afin de guetter l'horaire des transports de fonds de la Société Générale, rue Ordener, une rue tranquille qui se trouve au nord de Montmartre, loin du quartier des artistes. Le matin du 21 décembre de cette année 1911, en pleine rue Ordener, dans ce quartier populeux, ils vont en quelques minutes entrer dans la légende et devenir les bandits tragiques. Qui, mieux qu'Octave lui-même, peut nous raconter ces quelques minutes cruciales ? Avec ses yeux énergiques, il a tout enregistré. Il le racontera plus tard, avant sa mort violente. Nous arrivâmes à 9h moins 2 minutes à 200 mètres de l'endroit où l'encaisseur passait, car il venait du bureau central de la Société Générale et venait rue Ordener apporter de l'argent à la succursale. À 9h exactement, nous l'apercevons, descendant du tramway comme d'habitude, accompagné d'un autre personnage, délégué spécialement pour cela. L'heure est grave. Il faut agir promptement. Une seconde d'hésitation pourrait nous perdre. La voiture avance, je descends. Et un de mes compagnons descend également de voiture, tandis que Bono reste avec un quatrième à la voiture pour que personne n'approche. Je marche sur le trottoir, à la rencontre du garçon de banque, la main dans la poche de mon pardessus, la main sur la crosse de mon revolver. Mon compagnon, Calmin, est, lui, sur l'autre côté du trottoir, à quelques pas derrière moi. Arrivé à trois pas du garçon, je sors mon revolver et froidement, je tire une première balle, puis une deuxième. Il tombe pendant que celui qui l'accompagne s'enfuit en courant, transi de peur. Je ramasse un sac. Mon copain ramasse un autre que cet imbécile ne veut pas lâcher, car il n'est pas tué. Mais il finit par lâcher prise, car il a perdu connaissance. Nous allons remonter en voiture. Quelques passants veulent nous en empêcher, mais nous sortons alors nos revolvers. Nous tirons quelques coups et tout le monde se sauve. Nous montons en voiture, moi toujours à côté de Bono. Cela a duré quelques minutes. Ils étaient quatre. Garnier, Bono, Calmin et un complice jamais identifié. Calmin se réjouit d'avoir tiré sur, dit-il, un piéton du capitalisme. Ce qui est sûr, c'est qu'ils viennent, quelques années avant les tueurs d'Al Capone, d'inventer le premier hold-up en automobile de l'histoire. À 9h30, ils quittent Saint-Denis, se dirigent vers Le Havre, afin de faire croire qu'ils ont filé en Angleterre. On retrouvera à Dieppe la somptueuse limousine Delaunay-Belleville, sur la plage de Galles. La police du 18e arrondissement a brillé par son absence. Désormais, Bono, Garnier et leurs comparses vont semer une trace sanglante en France et même à Gand, où ils assassinent fin janvier 1912 un chauffeur d'automobile. Ce n'est qu'un début. Coup de main, vol de voiture, pillage d'armurerie, assassinats se succèdent. Le 27 février 1912, à Paris, près de la gare Saint-Lazare, les trois meneurs sont interpellés par un agent. Calmin, là-bas à bout portant. Un mois plus tard, à Montgeron et à Chantilly, c'est l'attaque d'une succursale de la Société Générale. Deux employés sont tués. Ils ont eu moins de chance que l'encaisseur de la rue Ordonnaire, qui survivra à ses blessures. La peur s'empare de l'opinion. Les bandits tragiques défraient les conversations. Les journaux en font chaque jour leur une. Certains citoyens applaudissent, d'autres condamnent. Tout le monde a peur. On effraie même les enfants, les menaçant d'appeler Bono s'ils ne sont pas sages. Les recherches piétinent. Mais que fait la police ? À la Chambre, un député radical interpelle le ministre de l'Intérieur. Bono, Carouille et Garnier sont en photo dans tous les commissariats. Mais rien ne se passe. Le 19 mars, Garnier adresse une lettre au directeur du journal Le Matin, conscient de son destin. Je sais que cela aura une fin dans la lutte qui s'est engagée entre le formidable arsenal dont dispose la société et moi. Je sais que je serai vaincu. Je sais que je serai le plus faible. Mais j'espère bien vous faire payer cher votre victoire. En attendant de nous rencontrer, Garnier. Garnier tiendra parole. Arrivent alors les grands rendez-vous. 30 mars, Soudy, le pas de chance, arrêté à Berck-sur-Mer. 2 avril, Calmin et Carouille appréhendés. Le 24, ce sera le tour de Monnier. En perquisition, Jouin, sous-chef de la sûreté, est abattu par Bono. 4 jours plus tard, le 28 avril, la retraite du bandit est repérée et cernée. Roulé dans des matelas, il se défend comme un diable, arrosant un coup de Browning les hommes de la sûreté et même le juge d'instruction. Tout le monde veut voir l'assaut final contre Bono. La foule exaspérée finira par lyncher son corps moribond. Dès le 15 mai, à Nogent-sur-Marne, Un véritable siège cerne pendant des heures le refuge de Garnier et Vallée, les deux derniers membres de la bande. Gardes républicains, gendarmes, inspecteurs de la sûreté, spécialistes des explosifs, lieutenants des dragons, sergents de ville et même un régiment de zouaves sont appelés pour en venir à bout. Impossible. Le site devient un lieu presque mondain. On vient même y pique-niquer par milliers dans le bruit des explosions de Ménélite. C'est the place to be du moment. À la nouvelle de la capture de Vallée et Garnier, c'est une explosion de joie. La ruée pour voir leur dépouille. La poussée de la foule qui aime se faire peur. Tout se termine à 3h du matin. Et Marie la Belge ? Dès les premiers échanges de tirs, Marie reste hébétée au milieu de la salle à manger de la villa où Garnier et Vallée se sont retranchés. Elle est là, répétant des mots d'amour qu'Octave n'entend déjà plus. Elle se jette alors dans ses bras. « Mariette, allez Mariette, tire-toi » hurle Octave. La porte s'ouvre. La jeune femme est cueillie par les inspecteurs de Guichard. Elle va assister pendant 9 heures à l'agonie de son amant. C'est la dernière image humaine de cette histoire. Elle est assise dans l'herbe la nuit, en larmes, glacée par l'horreur. Elle n'arrive même plus à pleurer. Alors elle se bouche les oreilles pour ne plus entendre les déflagrations et les rafales des mitrailleuses. Elle ne voit pas les journalistes, les noceurs accourus, les mondaines, qui s'amusent du spectacle et s'empiffrent dans les fourrés. Partout du sang, des plâtras, des morceaux de chair, une interminable odeur de poudre et de mort. Acquittée au procès de la bande, elle reviendra à Charleroi, après la Grande Guerre, ouvrir un magasin, rue du Cavalier, là où avait habité son amant. Et là, paraît-il, garder jusqu'à sa mort, sur sa chemise, la photo de son bel Octave. En février 1913, se déroule à Paris le procès des autres membres de la bande. Sans surprise, Soudy, Monnier et Calmin sont condamnés à mort. Car oui, aux travaux forcés à perpétuité. Après un premier échec, ce dernier se suicidera en prison. Monnier rédigera une sorte de testament qui nous prouve que leurs idées avaient quelques espoirs ou quelques naïvetés d'avance. Je lègue à la société mon ardent désir qu'un jour, peu lointain, règne dans les institutions sociales un maximum de bien-être et d'indépendance afin que l'individu, dans ses loisirs, puisse mieux se consacrer à ce qui fait la beauté de la vie, à l'instruction et à tout ce qui est science. Le 21 avril, on dresse la guillotine à sa place habituelle, sous les murs de la prison de la Santé, boulevard Arago. Monnier passe en premier. Quand vient le tour de Raymond La Science, le catch de Bruxelles lance cette adresse aux personnes présentes. « C'est beau, hein ? L'agonie d'un homme !» Une invective que n'aurait renié ni Camus, ni Badinter. C'était en 1913. On tenait la bande à Bonneau pour responsable de 9 morts. Mais tout est relatif. Une autre tuerie commencera un an plus tard. Elle fera 8 500 000 morts. Les coupables seront peu inquiétés. Voilà pour ce récit palpitant que j'ai eu le plaisir de vous partager grâce à la plume de Michel Carli.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.